Bon week-end. Dix heures à Paris, 9 heures en temps universel. Merci d'écouter RFI. Le journal, bonjour Gaëtan Plenet.
Bonjour Juan, bonjour à tous. État d'urgence à Bangkok ainsi que dans 6 régions birmanes. Première mesure après le séisme qui a secoué la région ce matin, on y revient. Dès le début de cette édition, des troupes européennes déployées en Ukraine en cas d'accord de paix. Paris et Londres sont pour et l'ont redite hier lors d'un sommet dans la capitale française. Dans ce journal également, reportage à suivre à Gaza dans l'horreur des bombes israéliennes. Et puis le conflit dans l'est de la RDC à l'ordre du jour d'une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était hier. Le pire redouté en Asie du Sud-Est après un violent tremblement de terre. Magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter. Ça a eu lieu à la mi-journée heure locale. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Gaëtan.
Des secousses ressenties en Thaïlande et jusqu'en Chine, mais l'épicentre Heike se trouve en Birmanie.
Oui, plus précisément au nord-ouest de Sagaing et à 17 km de Mandalay, une ville de plus d'1 million d'habitants située dans le centre du pays. La junte militaire n'a pas encore communiqué sur les dégâts ni sur le nombre de victimes, mais en effet, le pire est à craindre car le pays très pauvre, avec des millions de gens qui vivent dans des habitations précaires, est en pleine guerre civile et donc largement coupé du monde. De fortes secousses ont aussi été ressenties en Thaïlande, à Chiang Mai, destination très prisée des touristes étrangers, et puis à Bangkok, la capitale, ce qui a causé des mouvements de panique. Des milliers d'habitants se sont précipités dans les rues, apeurés, et sur des vidéos postées sur les réseaux sociaux, eh bien, on voit un bâtiment de 30 étages en construction s'effondrer comme un château de cartes. Une quarantaine d'ouvriers seraient encore coincés sous les décombres. Sur d'autres images, on voit une piscine tout en haut d'un gratte-ciel débordée brusquement. L'eau jaillit et dégouline sur la façade en verre. La première ministre Pattongan Chinavatra vient en effet de déclarer l'état d'urgence à Bangkok. Tous les bâtiments à plusieurs étages doivent être évacués par crainte de réplique.
Merci Heike Schmidt. État d'urgence également décrété dans 6 régions birmanes, la Birmanie où la junte lance à l'instant un appel à l'aide internationale. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir visé des infrastructures énergétiques hier et aujourd'hui et violerait donc selon la Russie un fragile accord censé interdire ses frappes sur ce type de cible. Les Européens, eux, se projettent. Ils étaient une trentaine de dirigeants mondiaux, majoritairement européens, donc réunis hier à Paris, un sommet destiné à finaliser des garanties de sécurité pour Kiev, avec notamment un éventuel déploiement militaire européen si un accord de paix était trouvé. C'est une idée portée par la France et le Royaume-Uni qui vont, dans les prochains jours, envoyer une mission en Ukraine pour préparer ce que sera le format de l'armée ukrainienne, ainsi qu'un possible déploiement de force. Le schéma d'action est prêt. Franck Alexandre, reste à déterminer ce que les pays volontaires sont prêts à engager.
Premier axe d'action, un soutien accru à l'armée ukrainienne. Il faut désormais déterminer le format d'aide pour cette armée. Un format finlandais avec une population en armes, un modèle d'armée qui tient le front ou une armée prête à repartir à l'offensive. Et si cela ne suffit pas, en deuxième ligne la plus discutée, les pays européens volontaires envisagent de déployer des troupes au sol. Une option défendue par Londres et Paris, un déploiement qui ne sera pas une force d'interposition, ont précisé français et britanniques. Il devra être composé de grandes unités, soit près de 30 000 hommes, et les options sont nombreuses. Faut-il placer cette force au centre de l'Ukraine ou encore faut-il se limiter à des missions de protection sur le flanc est européen? Reste qu'il faudra au moins 6 mois, disent les militaires, pour la déployer. Il faudra aussi mesurer tous les risques. L'utilisation d'avions de chasse le long de la frontière ukrainienne serait plus rapide et tout aussi dissuasif, font déjà entendre d'autres voix.
Franck Alexandre, spécialiste défense de Radio France Internationale. L'armée israélienne annonce être en train de mener des frappes dans le sud du Liban. Israël menacé de représailles après des tirs de roquettes ce matin depuis le Liban vers Israël. Le Hezbollah nie toute implication et dit respecter la trêve en vigueur depuis la fin du mois de novembre. À Gaza, la trêve a, elle, volé en éclats depuis le 18 mars et la reprise des bombardements israéliens. Ils ont fait près de 900 morts selon le ministère de la Santé du Hamas. Les images qui nous proviennent de ces frappes sont insoutenables. Un corps décapité, des membres arrachés, des enfants, des femmes et des hommes mutilés. Un véritable bain de sang, l'enfer promis par Israël s'abat sur la population. Reportage à Gaza de Rami Al-Merari avec Sami Bourelifa à Jérusalem.
Accroupi devant le corps déchiqueté de son fils, un père gazaoui tient la tête décapitée de son enfant entre ses mains. Pas de pleurs, pas de larmes, des gestes tendres, des caresses sur la joue, sur les cheveux, une prière, une invocation, un adieu. La vidéo est partagée sur les réseaux sociaux. Fatima était là lorsqu'en pleine nuit, cette bombe s'est abattue sur Jabalia et a fauché de nombreuses vies.
J'ai vu des scènes terrifiantes. Les gens couraient dans tous les sens. Il y avait du sang et des morts partout. J'aurais beau vous décrire l'horreur, je ne pense pas que mes mots suffiront. Nous avons ramassé des cadavres d'enfants. Ils ont bombardé des enfants.
Autrefois, à Gaza, les bombes s'abattaient sur des habitations, des maisons en dur, mais elles n'existent plus. Aujourd'hui, les gens vivent sous des tentes, détaille Fatima.
Quelle horreur! Ces avions qui viennent bombarder des enfants, des femmes et des personnes âgées en plein sommeil et qui n'ont pour abri qu'une simple tente.
À Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, Jihad et sa famille ne savent plus où aller.
Il n'y a aucun endroit sûr dans la bande de Gaza, donc on évite de se déplacer. Je vous assure, la situation est terrifiante ici. Potentiellement, on est tous une cible.
Le 18 mars dernier, Israël a violé unilatéralement la trêve en vigueur depuis le mois de janvier dans la bande de Gaza, exigeant des Gazaouis qu'ils lui remettent les otages et qu'ils chassent le Hamas, sans quoi ils subiraient des mesures jamais vues auparavant. Rami Al-Merari, Gaza, Sami Bourelifa, Jérusalem, RFI.
Les mesures défensives que nous avons mises en place resteront jusqu'à ce qu'il y ait un cadre crédible pour des garanties de sécurité à long terme le long de notre frontière avec la RDC. Cette déclaration, c'est celle hier du ministre rwandais des Affaires étrangères depuis New York où il assistait à un conseil de sécurité des Nations Unies. Ce même conseil qui, il y a un mois, réclamait un cessez-le-feu immédiat à l'est de la RDC ainsi que le retrait des forces rwandaises. La réunion d'hier consistait donc à constater les évolutions grâce au rapport de l'envoyé spécial du secrétaire général et chef de la MONUSCO. Conclusion, les situations sécuritaires et humanitaires se sont aggravées. Le récit de notre correspondante à New York, Karine Auton.
Depuis un mois, l'Alliance Fleuve Congo et le M23 se sont emparés de larges portions du nord et du sud Kivu. La chef de la MONUSCO décrit une situation humanitaire qui s'empire à cause du système bancaire hors service ou des mauvaises infrastructures qui ne permettent pas l'acheminement de denrées. Elle a demandé la réouverture des aéroports de Goma et de Kavumu. Les ambassadeurs de RDC, de l'Angola, du Burundi, comme l'ensemble du Conseil, ont réclamé un règlement politique. Le chef de la diplomatie rwandaise, Olivier Nuhundiere, a refusé de confirmer à la presse le nombre de soldats rwandais déployés côté congolais.
Au Rwanda, nous avons déployé des mesures défensives le long de notre frontière pour nous défendre contre les menaces émanant ces 30 dernières années de l'Est de la République démocratique du Congo. Les milices et les groupes qui travaillent pour le gouvernement de Kinshasa ne veulent que renverser le gouvernement rwandais.
Le ministre des Affaires étrangères rwandais a aussi attaqué à charge la MONUSCO, l'accusant de tordre les faits, de ne pas être neutre et d'avoir failli à sa mission de démanteler les groupes armés congolais, malgré le soutien unanime du Conseil pour la force onusienne. Karine Auton, New York, RFI.
Il est 10h08 à Paris. Jordan Bardella doit rentrer en France ce matin après deux jours passés en Israël. Le président du Rassemblement national y avait été invité par l'extrême droite israélienne. Il a notamment visité le mémorial de la Shoah, mais s'est aussi rendu sur des sites de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Raphaël Delvolvé, cette visite, il faut s'attendre à ce que Jordan Bardella s'en serve à l'avenir pour affirmer que les pages sombres de l'ère Jean-Marie Le Pen sont définitivement tournées.
C'est un moment historique, aime-t-on répéter dans l'entourage de Jordan Bardella, pour qui le voyage traduit l'aboutissement d'une stratégie de dédiabolisation datant de 2011 et appliquée jusqu'à très récemment. Le refus de Jordan d'intervenir à la CPAC de Washington après le salut nazi de Steve Bannon a sans doute permis cette invitation, souligne un cadre. Une invitation du gouvernement israélien, aime-t-il préciser. C'est une preuve qu'il n'y a plus aucune trace d'antisémitisme au parti, conclut-il, bouchant cependant volontairement les oreilles lorsqu'on lui rappelle les polémiques, l'annulation d'une rencontre avec le président israélien, les défections parmi les intervenants à la conférence contre l'antisémitisme ou l'instrumentalisation dénoncée par le CRIF, la principale institution juive de France. Que ça plaise ou non, les juifs de France sont de plus en plus nombreux à voter pour nous, explique l'entourage du patron du RN, prenant pour exemple la centaine de Français d'Israël venus le rencontrer ce jeudi soir à Jérusalem.
Raphaël Delvolvé. Puis je vous rappelle qu'on suit la situation en Asie du Sud-Est après un violent séisme qui semble avoir fait de lourds dégâts à Bangkok ainsi que dans plusieurs régions birmanes où l'état d'urgence a été déclaré. Il est 10h10 à Paris.